RFI 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, les négociations en Turquie entre la Russie et l'Ukraine qui ont bien eu lieu ce vendredi, dans une ambiance tendue. Les négociateurs ont parlé de cesser le feu, d'une éventuelle rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine, et puis d'un échange de prisonniers. Le négociateur russe s'est dit prêt à poursuivre les contacts avec les Ukrainiens. Premier discours de Léon XIV ce matin devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Le nouveau pape a appelé à lutter contre les inégalités mondiales et les conditions de travail indignes. Nous appellerons notre correspondant au Vatican. Et puis la France a porté plainte ce vendredi contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Plainte pour violation de son obligation de donner droit à la protection consulaire. Les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus depuis 3 ans en Iran dans des conditions indignes qui sont assimilables à de la torture, insiste le Quai d'Orsay. Les négociateurs russo-ukrainiens se sont bien parlé ce vendredi, en Turquie. Ils ont évoqué la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, également d'organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et puis, ils prévoient l'échange 1 000 000 de prisonniers de chaque camp. Le négociateur russe a dit à la presse être prêt à poursuivre les contacts avec les Ukrainiens. De son côté, le président français Emmanuel Macron a jugé inacceptable que la Russie, de nouveau, n'ait pas répondu à l'appel au cessez-le-feu des Américains et des Européens. Le président français qui s'exprimait de Tirana, en Moldavie, à l'occasion du sommet de la CPE, la Communauté Politique Européenne, qui réunit 47 pays européens, membres et non membres de l'Union Européenne. Emmanuel Macron maintient donc la pression, on l'entend, sur Moscou. Il semble quand même aussi temporiser.
Dans les prochaines heures, la délégation ukrainienne attend un retour sur les demandes faites de la délégation russe et nous aurons l'occasion de rééchanger avec le président Trump. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce qui reste d'actualité, c'est la seule chose, la seule proposition concrète qui a été faite, celle d'un cessez-le-feu inconditionnel. Nous continuons par ailleurs de préparer des nouvelles sanctions en coordination avec les États-Unis d'Amérique au cas où ceci ne trouverait pas une réponse positive.
Parmi les sujets abordés aussi à Tirana, les menaces sur les démocraties de l'Est de l'Europe, notamment en Roumanie, qui vote ce dimanche pour le second tour d'une présidentielle qui a dû être réorganisée sur fond d'ingérence russe et qui oppose un candidat pro-Moscou et un europhile. Emmanuel Macron s'est inquiété des résultats d'une victoire de l'extrême droite en Roumanie pour le voisin moldave. RFI 22h03 à Rome. Au Vatican, où le pape Léon XIV a tenu ce matin son premier discours devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Le nouveau souverain pontife a fixé les priorités de l'action diplomatique de l'Église à venir, appelant à lutter contre les inégalités mondiales et les conditions de travail indignes. Correspondance Eric Sénanque.
La communauté diplomatique représente toute la famille des peuples, a expliqué le nouveau pape devant les ambassadeurs, soulignant que la diplomatie pontificale a pour mission de combattre toute indifférence. Il faut s'efforcer de remédier aux inégalités mondiales qui voient l'opulence et la misère creuser des fossés profonds entre les continents, entre les pays et même au sein d'une même société, encore souligné Léon XIV. C'est avec des accents qui rappellent le pape François que son successeur a puisé dans son histoire personnelle, celle d'un fils d'immigré marqué par plusieurs continents.
Mon histoire est celle d'un citoyen descendant d'immigrés, lui-même émigré. Au cours de la vie, chacun d'entre nous peut se retrouver en bonne santé ou malade, avec ou sans emploi, dans sa patrie ou en terre étrangère.
Il est nécessaire de redonner un souffle à la diplomatie multilatérale et aux institutions internationales, a encore plaidé le nouveau chef de l'Église catholique. Cause écologique, intelligence artificielle, dialogue interreligieux, les défis ne manquent pas. Cette année de jubilé au cours de laquelle il a été élu pape, et pour Léon XIV, une invitation à laisser derrière nous les conflits, a-t-il enfin expliqué. Une urgence, a-t-il conclu, dans des contextes aussi éprouvés que l'Ukraine ou encore la Terre Sainte. Eric Sénanque, Rome, RFI.
Les bombardements israéliens ont fait au moins 90 morts ce vendredi dans la bande de Gaza. Donald Trump s'est ému de la faim à Gaza. L'armée israélienne empêche depuis plusieurs mois, vous le savez, l'entrée de toute aide humanitaire. Nous nous intéressons à Gaza et nous allons faire en sorte que cela soit réglé, a affirmé le président américain. Le Conseil de l'Europe dénonce de son côté une famine délibérée. Au Liban, des casques bleus de la FINUL ont été attaqués ce vendredi par des civils armés de barres de fer et de haches. Pas de blessés, la FINUL est chargée de superviser l'accord de cessez-le-feu qui a mis un terme fin novembre à 2 mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le Hezbollah. En Turquie, l'armée continuera ses opérations contre le parti des travailleurs du Kurdistan jusqu'à ce que la région soit nettoyée, c'est ce qu'affirme le ministère turc de la Défense. Une déclaration faite après l'annonce ce lundi de la dissolution du groupe armé kurde. Alors le PKK est principalement présent dans le nord de l'Irak, il est aussi en Syrie, où cette annonce de dissolution fait réagir. Le ministère syrien des Affaires étrangères parle ainsi de moments charnières pour la stabilité de la région. Pas de réaction par contre de la coalition kurde FDS qui contrôle jusqu'ici le nord-est du pays. Dans le nord, à Alep, les habitants des quartiers kurdes espèrent eux que cette dissolution ouvrira la voie à une véritable paix avec la Turquie. Reportage Manon Chaplin.
Sur la place des martyrs de Shahr Maksoud, des estrades, des drapeaux et trois grandes photos. Celle d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Celle à ses côtés de deux leaders martyrs du parti. Mariam est venue ici pour rendre hommage à l'organisation suite à l'annonce de sa dissolution.
Avant l'apparition du PKK, on n'avait même pas le droit de dire qu'on était kurde. On ne pouvait pas parler notre langue. La rhétorique d'Öcalan a ouvert les yeux sur notre situation. Cela a permis aux Kurdes d'avoir un certain prestige. Nous sommes fiers du PKK.
Sur un muret criblé de balles, un groupe de jeunes hommes, eux, ne croient pas qu'une solution politique permettra de résoudre le vieux conflit entre les factions armées kurdes et la Turquie.
Cela fait des années que nous avons régulièrement des martyrs, que nous allons nous battre dans les montagnes. C'est une erreur de déposer les armes. Nous devons continuer à nous battre.
La rue qui fait face à l'appartement de Mohamed porte les nombreux stigmates de la guerre avec les factions pro-turques. Son frère est mort dans les années 90 après avoir rejoint la guérilla armée kurde en Turquie, mais aujourd'hui...
Je suis content, car nous avons combattu pendant des décennies sans résultat. Notre vie était compliquée, beaucoup de nos jeunes partaient rejoindre la guérilla. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons résolu le problème par la voie politique.
Nouri Cheko, coprésident du conseil local du quartier.
Cette initiative va aussi nous influencer en tant que Kurdes syriens. J'espère que les leaders turcs vont comprendre qu'il faut un vrai processus de paix.
Un accord signé en mars prévoit l'intégration des institutions kurdes au nouvel État syrien d'ici à la fin de l'année. Lundi, Damas a averti les Kurdes que tout retard risquerait de prolonger le chaos après 14 années de guerre dans le pays. À Alep, Manon Chaplin, RFI.
La France a porté plainte ce vendredi contre l'Iran devant la Cour internationale de justice pour violation de son obligation de donner droit à la protection consulaire. Les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis 3 ans en Iran, le sont dans des conditions indignes qui sont assimilables à de la torture et ils sont privés de ce qu'on appelle les visites consulaires, affirme le Quai d'Orsay. Alors, la France peut-elle obtenir gain de cause avec cette plainte? Écoutez l'avis de l'avocat Evans Ogada, spécialiste du droit international et professeur à l'université de Nairobi.
The chances of France succeeding.
Les chances de la France, pour les évaluer, il faut distinguer deux étapes dans cette procédure. D'abord, il y a les mesures provisoires. Ce sont des sortes de décisions d'urgence en attendant que la Cour se prononce sur le fond de l'affaire. Sur ce point, la France a de bonnes chances d'obtenir gain de cause, notamment pour obtenir un accès consulaire immédiat à ces deux ressortissants détenus. Et sur le fond, bien là, ça sera plus long. Mais tout va se jouer sur un point clé. Est-ce que l'Iran a respecté ou non ses obligations en matière de protection consulaire? Autrement dit, est-ce que les autorités iraniennes ont bien permis aux diplomates français de rencontrer les deux détenus, de leur parler librement et de défendre leurs droits? Ce sera à l'Iran d'en apporter la preuve devant la Cour. Il y a un précédent historique. La Cour internationale de justice a déjà condamné l'Iran dans une affaire similaire. C'était en 1980, quand des diplomates américains avaient été pris en otage à Téhéran. La Cour avait tranché en faveur des États-Unis, mais à l'époque, l'Iran avait tout simplement refusé d'appliquer la décision.
Ivan Sogada, joint par Abla Junaidi. Forte mobilisation ce vendredi en Europe contre les thérapies de conversion. 1 million d'Européens ont appelé à les interdire. Ces thérapies qui visent les personnes LGBT+, n'ont de thérapie que le nom en fait. Ce sont des stages, des séances d'électrochocs ou même des séances d'exorcisme qui prétendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et qui assimilent l'homosexualité à une maladie. Elle ne serait interdite actuellement que dans 8 pays de l'Union Européenne. Et les signataires de la pétition, parmi lesquels la chanteuse belge Adèle ou encore l'ancien Premier ministre français Gabriel Attal, veulent les faire interdire dans toute l'Union Européenne. Alors maintenant que le seuil du 1 million de signatures est atteint, la Commission doit répondre publiquement, mais rien ne l'oblige à transformer cette initiative en acte juridique européen. RFI, 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, RFI vous propose d'écouter un concert de Tiakola, enregistré par RFI Labo. C'était à l'Accor Arena de Paris, un concert qui vous est présenté par Juliette Fievé, réalisation Benjamin Sarallier.